Qui est-ce qui a senti la présence de Jésus pendant la louange? Qui est-ce qui a reçu quelque chose pendant la louange qui a envie de le partager? Enfin, je vais dire autrement. Qui est-ce qui a reçu quelque chose qui peut édifier les autres et que vous gagneriez, en fait, à partager? Des fois, dans ce qu'on ressent ou dans ce qu'on vit, il y a des choses qui sont très élaborées, mais des fois, il y a juste quelque chose qu'on peut partager et puis qui édifie et qui bénit aussi les autres qui sont autour. Eh bien, viens, Nuria.
J'espère que ça va édifier. Moi, j'ai vraiment eu, j'ai, à un moment donné, pendant la louange, j'ai vraiment vu Jésus sur la croix. Et tout de suite, je me suis dit, mais tiens, mais c'est quoi cette image? Un petit peu, c'était mon passé, hein, mes origines catholiques. Et boum, il a glissé comme ça. Et puis, il était debout. Et puis, il avait toujours les mains tendues, comme à la croix. Mais il s'approchait. Et puis il venait, puis bam, il m'a pris très très fort dans ses bras. Et tout d'un coup, j'ai eu cette image qu'il avait exactement la même, il faisait exactement la même chose avec chacun de vous. Et voilà, c'était très fort. Je me suis demandé, est-ce que le Seigneur me demande de le partager ou pas? Alors je te remercie de m'avoir tendu la perche.
Reste là, reste là.
Qui c'est qui a aujourd'hui, dans ce que vous vivez, vous dites, moi j'ai besoin d'avoir Jésus qui s'approche de moi et qui me prenne dans ses bras. Levez-vous et puis toi tu vas prier pour ceux qui ont besoin. Sinon tu vas prier, elle va prier pour moi toute seule. Hein. Moi ça me dérange pas, j'ai pas de problème. Mais on traverse tous des moments de nos vies où on a besoin de ressentir la sécurité de Dieu d'une manière particulière, puisque tu partages sur Jésus qui s'approche et qui étend ses bras autour de nous, c'est vraiment une image de ça. Alors toi, je te propose de prier pour ça, pour que ça ne soit pas... Et vous, accueillez-le simplement, en même temps qu'elle le prie. Vous pouvez tendre vos mains, vous pouvez lever vos mains vers le ciel, vous pouvez aussi ouvrir vos bras. Faites la chose qui vous semble la plus... qui vous parle le plus d'une manière personnelle. Mais de répondre aussi à cette parole de Jésus.
Seigneur Jésus, moi je vais te remercier pour ce Dieu qui a accepté de venir à la croix et qui n'est pas resté à la croix, qui est vraiment ressuscité, qui est vivant, qui est présent. Merci Seigneur pour ce Dieu merveilleux qui tend les bras et qui veut vraiment venir vers chacun de mes frères, de mes sœurs pour l'embrasser, pour le prendre tout contre son cœur, Seigneur. Tu es ce Dieu de lumière qui veut nous faire du bien, qui nous bénit. Merci Jésus, merci pour ton amitié, pour ton amour. Dans le nom de Jésus. Amen.
Amen. Je prie que vous puissiez l'expérimenter encore pendant toute cette semaine. On vit des temps qui, pour certains, sont super, d'autres qui ne sont pas faciles. Et on a besoin de prendre conscience de cette présence de Dieu qui est là à plein de moments et de Dieu qui veut nous prendre dans ses bras. C'est un peu bizarre ça pour certains. Pour certains, je sais que ça vous fait bizarre, mais c'est pas grave. Est-ce que quelqu'un d'autre a vécu ou reçu quelque chose qu'elle aimerait partager puis qu'on pourrait libérer sur les uns et les autres? Quelque chose que vous avez vu, ça peut aussi être quelque chose que vous avez entendu, quelque chose que vous avez ressenti. Quelque chose que vous avez vécu et vous dites, ben, ce que j'ai vécu moi, j'aimerais que d'autres puissent le vivre. C'est parce que vous êtes timide ou parce que... Ah ben viens Sarah. Non, viens au micro pour que tout le monde t'entende.
Merci. Rien n'est nouveau sous le soleil. Ce matin, j'ai réalisé combien la patience, la compassion, la miséricorde de notre Père Céleste et Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit ont envers nous. Ils daignent recevoir notre louange comme elle est. Alors, elle est toute imparfaite. Ma louange, je ne peux pas vous juger, ma louange est très imparfaite, mais Dieu l'accueille. Et je réalise une fois de plus combien la compassion est là pour nous.
Est-ce que tu veux faire une prière de reconnaissance pour ça?
Seigneur, j'ai même les larmes aux yeux. Tu accueilles notre louange et reconnaissance imparfaite avec nos limites. Et Seigneur, merci de ce que tu nous accueilles tel que nous sommes. Sois loué, béni. Nous sommes des pèlerins tout petits, mais debout et on veut marcher avec toi. Amen.
Amen. Encore quelqu'un? Viens, Fatia. La personne la plus importante ici au milieu de nous ce matin, c'est Jésus. C'est plus que n'importe qui d'entre nous. Et s'il a envie de dire ou de vivre quelque chose avec nous, on veut lui donner de la place.
Ce n'est pas une image que j'ai vue, mais en fait, j'ai senti vraiment pendant la louange l'esprit, le souffle de l'esprit qui était en train de nous envahir, en fait, nous remplir. Et vraiment, c'était une sensation de tendresse et d'amour que j'ai reçue dans mon cœur. Et vraiment, que cela aussi soit libéré dans chacun de vos cœurs et que le Saint-Esprit vienne aussi vous remplir de son amour.
Est-ce que vous voulez, ceux qui veulent, levez-vous pour ça. C'est important, je crois que je sens qu'il y a un aller-retour vraiment entre la présence de Jésus et puis nous ce matin. Et merci pour Lucas et Giuseppe pour la louange. Mais si Jésus est là et qu'il veut nous donner quelque chose, qu'on le perçoive ou pas, c'est pas important. Mais ceux qui le perçoivent, ils sont un signe pour ceux qui le perçoivent pas. Et on veut accueillir ça complètement. Et simplement, tu peux le proclamer sur nous, le libérer sur nous. Et nous, on veut l'accueillir parce qu'en fait, même si on s'en rend pas compte, on en a besoin.
Oui, Seigneur, je te remercie, Seigneur, pour ton amour, Seigneur, pour vraiment, Seigneur, cette profondeur que tu as pour nous et tu veux pour nous, Seigneur. Et Seigneur, aujourd'hui, je veux proclamer sur la vie de mes frères et sœurs, Seigneur Jésus, l'Esprit Saint, Seigneur, que le souffle de l'Esprit Saint vient, Seigneur, se déverser en nous et, Seigneur, qui vient vraiment se révéler dans chacun de nous, Seigneur. Je proclame, Seigneur Jésus, que tu viens et tu remplis chacun, Seigneur, qui est vide aujourd'hui, Seigneur, par ton Esprit Saint et par ton amour, par la profondeur, Seigneur, de la relation avec toi, Seigneur. Que tu viens, Seigneur, vraiment, Seigneur, vraiment... faire naître, Seigneur Jésus, cette communion avec toi, Père. Vraiment, Seigneur, tu déverses en nous, Seigneur, cette communion, Seigneur, que chacun de nous, Seigneur, vive, Seigneur, cette communion personnelle, qu'il soit rempli du Saint-Esprit, Seigneur. Je libère le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ sur chacun de nous, au nom tout-puissant de Jésus. Amen.
Est-ce qu'on peut se mettre juste avec quelqu'un? Mettez-vous avec une personne qui est près de vous et puis on va le prier les uns pour les autres que dans ces jours et dans ces semaines qui viennent, on puisse expérimenter une dimension de la présence de Jésus et de la présence du Saint-Esprit dans notre vie d'une manière nouvelle. S'il y a une chose dont on a besoin, c'est ça. On a besoin que la présence de Dieu soit manifestée. On a besoin que sa parole devienne réelle. On a besoin que son intimité devienne proche. On a besoin que son amour devienne constante. Alors, priez pour quelqu'un et on n'a pas besoin de parler, mais simplement d'appeler ça sur cette personne. Appelez la présence de Dieu. Appelez la présence du Saint-Esprit. Appelez la liberté du Saint-Esprit dans la vie les uns des autres. Amen. Que le Saint-Esprit continue à nous remplir et qu'il continue à nous faire vivre. Depuis la rentrée, une des raisons pour lesquelles je fais ça, c'est parce que depuis la rentrée, une des choses que le Seigneur me redit, c'est une chose sur quoi il a travaillé dans ma vie depuis des années. Mais dans cette saison et depuis la rentrée, c'est quelque chose sur quoi Dieu revient et il me parle de nouveau. C'est de toutes ces choses qui, dans notre foi, sont restées un peu à l'état de théorie ou à l'état de potentiel, mais qui n'ont pas été libérés, parfois pas du tout ou parfois pas complètement. Et du coup, alors c'est un travail de toute notre vie, mais j'y suis plus sensible encore parce que je sens que le Seigneur m'en parle et puis j'ai l'impression que, et je vais en parler un peu ce matin, j'ai l'impression qu'il nous invite à retravailler ça, à reprendre des choses qui sont des bases de notre foi. On pourrait prendre presque toutes les choses que tu as dites ce matin. Il y a des vérités dedans. Mais beaucoup de ces vérités, elles continuent à rester... je ne sais pas comment dire ça. Vous savez, ces choses, on est d'accord en fait. On y croit, c'est une belle idée. Mais il y a quelque chose qui ne s'incarne pas dans notre vie et qui ne devient pas réalité. Et dans ces dernières semaines, j'étais vraiment interpellée par ça et par l'impression que Dieu nous défie par rapport à ça, de reprendre des choses qui sont des bases de notre foi, des fondements de notre foi. Il y a des choses sur lesquelles le Seigneur me parle. Même dans cette semaine-là, j'avais un peu plus de temps, puis j'ai pris plus de temps avec le Seigneur. Et une des choses que le Seigneur m'a dit encore, c'est de revenir à des choses qu'il m'a dit au commencement, du temps où j'ai dit oui, je lui ai dit oui. Et puis les premières choses, j'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que qu'est-ce que c'est les choses qui sont importantes pour toi? Et les choses dont Dieu m'a parlé, c'était vraiment des choses de base, c'était des choses qui n'étaient pas du tout nouvelles. Et moi, j'ai dit, mais encore? Et Dieu m'a répondu, oui, encore. Et en fait, j'ai réalisé que une fois de plus, il y a quand même beaucoup de choses qu'on pourrait expérimenter d'une manière beaucoup plus incarnée et d'une manière beaucoup plus réelle. Mais c'est comme si à un moment donné, ça redevient un peu des belles idées, ou ça redevient un peu des belles vérités. On y croit, c'est pas qu'on n'y croit pas. Hein. On y croit, et on y croit vraiment, mais elle ne s'enracine pas dans notre vie, et on n'en voit pas le fruit. J'ai beaucoup aimé ta phrase, là. Nos plaintes prouvent que nous ne connaissons pas Dieu aussi bien que nous le pensons. Ben, ma vie témoigne de ça. Ma vie démontre ça, que c'est vrai. Et souvent, notre vie démontre ça. Le fait que, en fait, entre la réalité de ce qu'on croit de Dieu et la réalité de ce qu'on expérimente, il y a toujours un fossé. Et il y aura toujours un fossé, jusqu'au jour où on le connaîtra parfaitement. Mais chaque jour, chaque semaine, chaque mois, je veux m'engager à ce que ce fossé diminue entre ce que je crois de lui et ce que je vis de lui. Simplement parce que Dieu est vivant, parce qu'il est réel. Alors ça se passe pas toujours bien, c'est dans la vie de tout le monde, on a des hauts, on a des bas, on a des moments où on comprend ce que Dieu fait, des moments où on le comprend pas, on a des moments où on le vit pleinement et des moments où on le vit pas, mais Dieu n'a pas changé, ça veut dire qu'il y a des réalités de qui il est que pour l'instant je n'ai pas expérimenté. Eh bien je veux pas m'arrêter et je veux pas me contenter de ce que j'ai. Alors souvent on parle du fait qu'on doit pas être devant le Seigneur comme des enfants qui sont insatisfaits et puis qui sont tout le temps en train de réclamer. Et ça, c'est vrai. À un moment donné, il y a autre chose à vivre avec Dieu que réclamer. Mais là, il ne s'agit pas de réclamer, mais il s'agit de continuer d'avoir soif de plus. Et puis, je me souviens, il y a pas mal d'années maintenant, il y a une période dans l'église où j'étais, où le message qui circulait, c'était « c'est déjà bien ce qu'on a eu, il faut profiter de ce qu'on a eu, et puis il faut arrêter de demander plus. » Vous avez déjà entendu ça? Et aujourd'hui, je me dis « Mais en fait, c'était nul. Mais on a cru qu'on avait une idée brillante, mais c'était vraiment nul. » Parce que quand on lit ce que dit la Bible sur la réalité de Dieu, Dieu est tellement infini, il est tellement infini et il est tellement, on peut tellement le connaître de tant de manières différentes que tous ceux qui ont une révélation de Dieu à un moment donné, même s'ils ont un long chemin avec lui avant, ils sont émerveillés. Et ben moi, je veux trouver le moyen d'être émerveillé par Dieu de nouveau chaque semaine ou chaque mois. Chaque semaine, ça se passe pas, hein, je vous rassure. Mais même si c'était une fois par mois, au moins, pas juste d'être contente de quelque chose que Dieu me donne, mais de m'émerveiller à nouveau de quelque chose que je découvre de Dieu que je n'avais pas vu jusqu'à maintenant. Et je crois que ça va... Il y a un défi vraiment pour nous qui est toujours là, de prendre toutes les choses qu'on a apprises, de prendre toutes les choses auxquelles on croit et de les tirer dans une dimension où elle s'incarne et où elle s'exprime vraiment dans notre vie. Et je suis passionnée par ça. Et un des textes qui m'a parlé aussi dans cet automne et puis qui rejoint ça, je l'ai lu la dernière fois que j'ai prêché au mois de septembre, je ne vais pas le relire, mais c'est le texte qui est dans Ézéchiel 37 qui parle des ossements desséchés. C'est une vision qu'a le prophète Ézéchiel où il voit des ossements desséchés et Dieu lui demande si ces ossements pourraient revivre. Et Ézéchiel, il est assez prudent, il dit « Seigneur, il n'y a que toi qui le sais ». Et puis en fait, c'est Dieu lui-même, l'Esprit, qui va lui dire « Oui, ils peuvent revivre ». Puis c'est toi qui vas prophétiser dessus. Alors ça c'est quelque chose qui nous défie parce qu'en général, quand il y a quelque chose qui est mort ou qui a besoin d'être visité par Dieu dans notre vie, ce qu'on pense, c'est que c'est Dieu qui doit le faire. Et puis nos prières, elles sont toujours tournées de cette manière-là, en demandant à Dieu de faire les choses, en fait, et de ramener lui la vie. Et puis dans Ézéchiel, en fait, et dans cette vision, il y a une chose spéciale qui se passe, c'est que Dieu ne dit pas, eh ben regarde Ézéchiel, je vais le faire. Ça serait plus simple, en fait. Il y a plein de moments dans ma vie où j'aimerais tellement que Dieu fasse les choses sans passer par moi. Ça serait beaucoup plus simple, je suis sûre que ça serait beaucoup plus efficace et puis ça serait beaucoup moins fatigant aussi. Mais en fait, Dieu fait pas ça. Et là, dans cette vision d'Ézéchiel, il se tourne vers Ézéchiel et il lui dit, toi, tu vas prophétiser. Ça veut dire, tu vas annoncer la vie et tu vas parler sur ces ossements desséchés et tu vas leur ordonner d'écouter ma parole. Et puis, il lui dit tout ce qu'il doit prophétiser. Il doit prophétiser la chair qui revient, les nerfs qui reviennent, etc. La plupart, vous connaissez cette vision. Et Ézéchiel, il va le faire. Et il y a une dimension, alors prophétiser c'est toujours un, des fois j'hésite à utiliser ce mot parce que ça, pour certains du coup automatiquement c'est pas pour vous et puis pour les autres c'est, ça vous rend méfiant ou sceptique, mais n'empêche que c'est dans la Bible quand même. Et là dans ce texte il parle de prophétiser et il parle, ce qu'il fait en, quand il prophétise Ézéchiel, c'est qu'il est en train de proclamer la vie sur ses ossements, il proclame la vie sur les situations. Il n'est pas en train de prier, il ne prie pas en disant « Seigneur, fais revivre ». Il ne fait pas ça. En fait, il a reçu quelque chose de Dieu. Dieu lui a dit qu'il allait faire quelque chose. Est-ce que ces os vont revivre ? Oui, Ézéchiel, ils vont revivre. Alors toi, tu vas le dire. Et il commence à parler aux ossements desséchés et à dire « Vous allez revivre ». Et voilà ce qui va vous arriver. La chair va revenir, les nerfs vont revenir, les muscles vont revenir, etc. etc. C'est comme si Ézéchiel, il parle à ces ossements desséchés en leur disant ce qui va leur arriver. Parce que Dieu l'a dit. C'est pas juste parce qu'il en a envie, hein. Des fois, une des raisons pour lesquelles on est un peu fâché avec la prophétie, c'est parce qu'on a confondu la parole de Dieu, ce que Dieu voulait, et puis ce que nous, on a envie. Et prophétiser sur les choses ou proclamer les choses, c'est pas juste prendre tout ce que j'ai envie et puis le transformer en proclamation. Et de quoi j'ai envie, en fait ? J'ai envie qu'il fasse beau. Je proclame qu'il fait beau et ça se passe. Pour l'instant, c'est juste mon désir, en fait. Et aujourd'hui, il y a de grandes chances que ça ne va pas se passer. Et souvent, on a été fâchés avec la prophétie à cause de ça, parce qu'il y a eu du mélange, des fois, entre ce qui était la volonté de Dieu et puis ce qui était juste notre désir. Puis on a pensé qu'on pouvait, juste en proclamant quelque chose, qu'on pouvait que ça allait se passer. Mais là, ce qui se passe, c'est que Dieu a parlé à Ézéchiel, en fait. Il lui a dit ce qu'il allait faire. Et Ézéchiel, il peut parler la vie et il peut annoncer à ses os ce qui va se passer parce que Dieu lui a dit. Et ça, c'est ce qu'on veut chercher. On a tous des situations et des endroits dans notre vie qui sont comme des ossements desséchés, d'une manière ou d'une autre. Parfois, c'est une relation. Parfois, c'est les finances. Parfois, c'est le travail. Parfois, c'est... C'est un projet qu'on a entamé et puis qui se passe pas bien. Parfois, ça peut être une situation spéciale, ça peut être une situation plus globale. Mais on a tous des endroits qui sont un peu comme des endroits secs. Un endroit sec, ça veut dire c'est un endroit qui n'a pas été visité par la puissance de Dieu et par la vie de Dieu. Et du coup, c'est une relation qui porte pas de fruits, ou une relation qui se passe pas bien, ou un projet qui finalement n'aboutit pas et où on tourne en rond, ou une espérance qui n'aboutit pas, etc. Et dans ces ossements desséchés, en fait, souvent ce qu'on fait, c'est que, ou bien on fait plus rien, ou alors quand on fait quelque chose, souvent ce qu'on fait, c'est que ça, on s'adresse au Seigneur plutôt dans la plainte et en lui demandant à lui de faire quelque chose. Et une des choses que la Bible dont la Bible nous parle là, dans ce texte d'Ézéchiel 37, c'est de cette réalité qu'à un moment donné, Dieu peut te dire qu'est-ce que lui veut faire. Il te parle de sa volonté. Et du coup, au lieu de prier pour cette situation, tu peux commencer à t'adresser à cette situation ou t'adresser à ce projet en disant ce que Dieu veut et ce que Dieu fait. Et puis il y a beaucoup d'autorité en fait qui vient sur Ézéchiel à ce moment-là. Parce que qu'est-ce qui se passe en fait ? Ça se passe. Les os se rapprochent. Ça a dû être un truc énorme. J'aurais trop voulu voir ça. T'as les os qui se rapprochent, les nerfs qui viennent, la chair. Ça a dû être bizarre, mais c'est énorme. Mais ça, c'est le fruit simplement de cette collaboration entre la volonté de Dieu qui est que Dieu révèle à Ézéchiel d'un côté. Et de l'autre côté, Ézéchiel, qui agit dans la foi et qui dit « Ok, si Dieu le veut, alors je le dis, alors je le déclare, alors je le proclame. » Et puis Dieu le fait deux fois. Il le fait une fois pour les ossements desséchés qui se rapprochent et puis qui se forment de nouveau. Puis il lui fait une deuxième fois pour, en l'invitant à prophétiser la vie. Et puis je vais juste lire le verset 10. Cette histoire se termine de cette manière. « Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. » Et l'esprit entra en eux, dans les ossements, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. C'est énorme de penser que le début de cette histoire, en fait, c'est les ossements desséchés dans un endroit désert où il ne se passe rien, en fait. Et puis la fin de l'histoire, c'est une armée nombreuse qui est remplie de l'esprit, qui est vivante et qui se tient debout. Vous arrivez à imaginer l'écart qu'il y a entre ces deux moments? Et ben, dans chaque situation de nos vies qui sont comme des ossements desséchés, il y a quelque chose où Dieu a envie de nous emmener comme dans un voyage pour nous aider à saisir sa volonté et pour nous apprendre à prononcer, à annoncer ce qu'il veut faire pour faire passer les choses de cet état de sécheresse et de stérilité à un état où c'est vivant, en fait. Mais on ne peut pas choisir, ce n'est pas nous qui choisissons. Et ça, c'est un peu la chose difficile dans nos vies, c'est qu'il y a des tas de domaines que j'aimerais voir changer, il y a des tas d'endroits où j'aimerais voir Dieu faire ça, mais ce n'est pas moi qui peux choisir où est-ce qu'il le fait et quand est-ce qu'il le fait. On est très dépendant de Dieu là-dedans, en fait. Mais il y a pour chacun d'entre nous, il me semblait qu'il y avait des endroits qui étaient, et un endroit qui est comme ces ossements desséchés, et où Dieu a envie de nous apprendre ça, de l'écouter, de comprendre quelle est sa volonté, et de pas dire Seigneur fais quelque chose, mais de dire voilà quelle est la volonté de Dieu dans cette situation, et de la proclamer et de la déclarer. Et je vais dire un petit mot de la proclamation. Le mot proclamer en hébreu, c'est le mot qui est utilisé. C'est un mot qui est utilisé et c'est un mot qui est utilisé dès la fondation du monde. La proclamation, ça commence quand Dieu crée le monde, quand il commence à appeler la lumière et quand il commence à appeler les choses. Et c'est assez fort en fait. Quand au moment de la Genèse. Quand la lumière est créée, la terre, la mer, etc. C'est pareil. Dieu dit pas. Dieu explique pas les choses. Il dit, il veut la lumière. Il dit quoi? Il dit, pam, que la lumière soit. Et qu'est-ce qui se passe? La lumière a été. Et après, il demande que la mer et que les eaux se séparent. Et qu'est-ce qui se passe? C'est le même principe, c'est-à-dire que Dieu le dit. Et parce qu'il le dit, et ben sa volonté s'exécute. Et puis c'est créé, c'est fait en fait. Donc ça parle vraiment de cette puissance qui est dans cette parole. Quand on a une parole et quand on a une proclamation dans notre prière qui est unie avec ce qui est la volonté de Dieu, il y a une autorité qui vient et il y a une autorité qui est là et qui est forte. C'est ça ce qu'on lit dans la Genèse. Hein. Et en grec, ce mot proclamation, c'est un petit mot qui est kérousso pour ceux que ça intéresse. Et proclamer, ça veut dire être un héros, pas héros au sens de celui qui a la victoire, mais un héros, c'est l'ancien mot en fait, qui parlait de celui qui proclamait en fait, quand il y avait un décret dans les anciens royaumes, au Moyen-Âge et tout ça, quand il y avait un décret qui était prononcé ou quand il y avait une annonce publique qui était faite à l'intérieur du royaume, il y avait un héros, ça s'écrit AUT à la fin, et en fait cet homme, il était chargé de se tenir sur une place et d'annoncer en fait au peuple qu'est-ce qui allait se passer et comment les choses allaient se dérouler à partir de maintenant. C'est un peu comme une publication ouverte, c'est une déclaration de quelque chose qui va devenir une réalité. Et le Nouveau Testament utilise ce mot pour parler de la force de la proclamation dans notre prière. D'une proclamation dans la prière qui est une publication de ce que Dieu fait et de ce qu'il veut faire et de ce qu'il va faire en fait. Ça nous défie beaucoup parce que ça parle du fait que de l'autorité spirituelle qu'il y a dans notre bouche, en fait. Il y a quelques années, je ne sais pas si certains vous avez entendu ça, mais il y a eu beaucoup d'enseignements qui ont été donnés justement sur le pouvoir de la bouche et le pouvoir de nos mots. Puis c'est quelque chose qui est reconnu, même en psychologie, en fait. On reconnaît le pouvoir des mots. C'est un truc tout bête, mais souvent on parle du fait que les gens qui ont été éduqués et puis élevés dans un environnement où tous les mots qui leur sont donnés sont plutôt des mots et des appréciations négatives, qu'est-ce qui se passe ? Ils deviennent ce qu'on a dit d'eux, en fait. Et alors que si tout d'un coup ces personnes sont, pour une raison ou une autre, sont transportées dans un autre environnement, où tout d'un coup on prononce sur eux des paroles qui sont positives et on a sur eux des mots qui sont positifs sur leur vie, alors il peut y avoir des crises, mais à la fin des choses, il y a un changement qui se produit. Et finalement, les personnes qui sont, elles peuvent passer de tout le côté négatif qui était là à quelque chose où il y a quelque chose qui se il y a quelque chose qui se construit, il y a quelque chose qui se bâtit en eux de positif, qui est leur vraie identité, simplement parce que ce qu'on a prononcé sur eux, c'est vrai. Puis on le voit pour nous. Si tu as quelqu'un qui vient tout le temps, la plupart on l'a vécu dans un milieu scolaire, ou bien dans un contexte familial, ou bien dans un contexte de travail. Quand tu as quelqu'un qui vient toujours te dire que ce que tu fais, c'est pas bien, est-ce que ça t'aide à t'améliorer quelque part? Jamais, jamais. Même nous, déjà, c'est notre propre parole sur nous. Ça commence là, en fait. J'aurais dû commencer par ça. Si tu es tout le temps en train de te parler à toi-même et de te juger toi-même sur ce que tu sais pas faire, est-ce que tu fais de mal et comment tu es nul, est-ce que ça t'aide à changer? Si jamais quelqu'un a trouvé la clé, ou en vous accusant vous-même, ça vous permet de changer, surtout il faut la donner à tout le monde. Parce que jusqu'à présent, ça ne marche pas. Si tu t'accuses toi-même, si tu te juges toi-même, et si tu es négatif avec toi, parce que tu as une attitude ou un trait de caractère, ou alors tu as de la difficulté dans un domaine, c'est pas en t'accusant que tu peux changer. Ça nous enfonce, en fait. Et puis ça nous enferme. C'est comme si c'est une proclamation négative sur nous-mêmes, et ça devient notre prison. On devient à l'image de notre proclamation négative. Alors que quand tu as des gens autour de toi, ou quand toi tu commences à ouvrir une porte pour toi en disant non, je ne suis pas comme ça, c'est pas ma vraie nature, et c'est pas vraiment qui je suis, ben tu crées une ouverture et tu sors de ta prison et tu te donnes la possibilité de changer et d'évoluer. C'est pour ça que la manière dont on parle de nous, c'est important. Comment est-ce que vous parlez de vous-même? Et puis la manière dont vous parlez des autres, aux autres, les deux, vous parlez des autres aux autres, c'est important aussi. Et on le vit de manière très concrète, mais avec la parole de Dieu, c'est un petit peu la même chose, en fait. Et on est invité, Dieu nous invite vraiment à prononcer sa parole à lui sur notre vie. Une parole qui nous bénit, une parole qui nous ferait croître. Ça peut même être une parole qui nous corrige. Est-ce que ça vous arrive que de temps en temps, Dieu vient et puis il vous dit un truc? Et moi, ça m'arrive en tout cas. Régulièrement, en général, je suis assez contente de moi dans un domaine. Et puis tout d'un coup, Dieu vient. Il me dit, il n'est pas si content que ça, en fait. Mais en fait, je ne suis pas blessée par ça. Je ne suis pas mécontente de ça. Je suis reconnaissante à Dieu pour ça. De ces moments où il me reprend et puis il me remet en question. Parce que ce n'est pas une parole. C'est une parole qui est. Le contenu n'est pas forcément positif, mais l'intention, elle est positive. Son but, c'est de me corriger et puis de m'aider à retourner dans la bonne direction. Et on a besoin de le réapprendre pour notre vie et on a besoin de le réapprendre pour les situations qui sont autour de nous. Si tu considères qu'il y a des domaines de ta vie qui sont comme des ossements desséchés et que tu passes des semaines, des mois et des années juste à dire « Oh, mais c'est des ossements desséchés, oh, c'est nul, oh, c'est sec, oh, ça va pas », ça ne va jamais changer. Commence à penser à ce que tu es vraiment. J'ai entendu un témoignage très beau, en fait, de quelqu'un qui luttait, c'était quelqu'un qui était assez colérique, qui luttait beaucoup avec la colère, qui avait un arrière-plan plutôt dans la violence, et puis qui avait envie d'être débarrassé de cette colère et de cette violence, et qui ne savait pas comment faire. Et un jour, il est tombé sur un verset qui est dans Ésaïe, je ne me souviens pas de la référence exacte, mais c'est un verset qui parle du fait que Dieu est le rocher dont on a été tiré. Et puis, en fait, il a dit, mais si moi j'ai été tiré de Dieu, Dieu est pas, il y a pas de méchanceté en Dieu, il n'y a pas de colère en lui, et il n'y a pas de cette violence qu'il y a en moi en lui. Ça veut dire que la colère et la violence que je vis, elle ne m'appartient pas en fait. Elle n'est pas ce que je suis vraiment. Et ça a été le déclic à partir duquel il a commencé tout un processus de restauration et de changement. Et où il a été vraiment libéré de toute cette colère et de cette violence qui était en lui, mais simplement parce que tout d'un coup il y a une porte qui s'est ouverte pour lui, où au lieu simplement de s'accuser et de se juger lui-même et de s'enfermer dans sa situation, il a réalisé qu'il y avait une autre chose qui était possible, et il a commencé à travailler en vue de cette autre chose. Et je crois que Dieu nous appelle à ça. Il nous appelle à être des personnes qui retrouvent une bouche qui proclame les vraies choses, qui proclament des choses qui amènent la vie. Quand Dieu me corrige, c'est pas forcément positif, mais ça amène la vie. C'est comme des parents. Les parents qui ont des enfants, ils disent, j'espère, vous dites plein de choses positives à vos enfants, mais de temps en temps, il y a aussi des choses qu'il faut reprendre. Mais ça reste une parole de vie. C'est ça, de temps en temps, il y a toute cette discussion de dire qu'est-ce qu'on peut dire et qu'est-ce qu'on peut pas dire. La question centrale, c'est est-ce que ça amène la vie ? Est-ce que je peux tourner cette chose d'une manière que ça libère de la vie ? Oui, j'ai besoin de corriger, oui, j'ai besoin de reprendre, oui, j'ai besoin de changer, mais je veux le faire d'une manière qui amène la vie. On peut le faire sur l'église aussi, d'ailleurs. C'est pareil. Il y a des moments... je regarde personne comme ça. Mais il y a des moments où quelqu'un... des fois, on est découragé par ce qui se passe ou par ce qui se passe pas, et on peut faire la même chose, en fait. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit les ossements desséchés. On voit les choses où c'est sec, on voit les choses où c'est difficile, on voit les choses où la vie est partie, où la vie n'est plus là. Et puis, qu'est-ce qu'on a tendance à faire ? On voit et puis on parle dessus l'état qui est là. C'est-à-dire que c'est sec, ça ne marche pas, c'est difficile, la vie est partie. Qu'est-ce qu'on fait quand on fait ça ? Oui, on est en train d'accumuler sur une situation, on accumule tout plein de paroles et tout plein de pensées négatives. Est-ce que ça va faire changer les choses ? Non. Non seulement ça ne fait pas changer les choses, mais en plus de ça, si moi, jour ou semaine après semaine et mois après mois, je suis juste en train de dire, parlons de l'Église, comment c'est difficile et comment c'est négatif, au bout d'un moment, je n'ai même plus envie d'y aller en fait. Et j'ai même plus envie d'y servir parce que c'est trop dur. C'est là où on a besoin vraiment de retrouver et de redonner de la place à notre écoute de Dieu dans ce qu'on vit. Que ce soit dans notre vie, dans notre famille, dans nos projets, dans l'église ou dans quoi que ce soit. À partir du moment où on abandonne l'espérance que les ossements desséchés, à un moment donné, peuvent redevenir une armée vivante, si on lâche cette espérance, et si tu penses que finalement cette situation, elle est enfermée et elle est cloisonnée, et puis que tu la scelles, parce que quelque part, c'est ce qu'on fait. Quand on accumule des paroles négatives sur une situation, on est en train de la... C'est comme si on l'enferme dans ce qu'elle est. Ben, le seul moyen de la voir changer, ça sert à rien. Le seul moyen de voir cette situation changer, c'est de commencer à entendre quelque chose de Dieu. Commencer à entendre une parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit ? Qu'est-ce que lui veut ? Pas ce que moi je veux. Dieu ne fait pas ce que nous on veut. Et souvent, après coup, c'est mieux. Mais qu'est-ce que Dieu lui dit ? Qu'est-ce qu'il veut ? Et qu'est-ce qu'il voit ? Est-ce qu'il voit des ossements desséchés ? Oui. Dieu dit pas à Ézéchiel, regarde cette armée vivante. Il dit oui, c'est des ossements desséchés, c'est vrai. S'il y a une personne dans l'univers qui n'est pas touchée par le déni et par le fait de faire semblant, c'est Dieu. Dieu fait jamais semblant. Il voit les choses et il les voit en profondeur. Et il parle, il dit que c'est des ossements desséchés parce que c'est des ossements desséchés. Mais Dieu n'est pas enfermé par ça. Il sait que ces ossements desséchés, quelques temps plus tard, ils peuvent devenir une armée vivante. Mais nous, on voit les ossements desséchés et on n'a pas la perspective, en fait. On n'a pas l'espérance. On n'a pas cette parole et cette certitude que Dieu seul peut nous donner et qui fait qu'on peut venir avec une parole de vie et avec des proclamations de vie qui font qu'on peut passer des ossements desséchés à une armée vivante. Sur ce thème de l'armée, il y a un autre passage que je trouve extraordinaire qui est dans le livre des Nombres. C'est un moment où le peuple d'Israël sort d'Égypte. Donc quand il sort d'Égypte, il sort d'Égypte après plusieurs centaines d'années d'esclavage. Donc le peuple qui sort d'Égypte, c'est pas un peuple de vainqueurs. C'est pas un peuple qui a expérimenté le succès et la réussite dans tout ce qu'il faisait. Et il y a un petit verset dans le livre des Nombres qui parle du jour où le peuple d'Israël sort d'Égypte pour entamer son chemin vers le désert. Et en fait, dans ce verset, Dieu dit « En ce jour-là, Dieu fit sortir d'Égypte toutes ses armées. » Et toi, tu es là, tu dis « Ah, bah, elles étaient belles, les armées de Dieu, certainement au moment où elles sont sorties d'Égypte. » Et ça, c'est notre regard, c'est ce que je pense de moi, c'est ce qu'on pense les uns des autres, c'est ce qu'on pense des situations. Nous, on ne voit pas les armées, nous, ce qu'on aurait vu, c'est un peuple d'esclaves qui allait péniblement tenter d'arriver jusqu'à la terre promise et qui était tellement incrédule qu'au lieu d'y arriver en quelques semaines, ils allaient mettre 40 ans. Ça, c'est notre vision. Et puis mais ce n'est pas la vision de Dieu, en fait. Même s'il y a des hauts et des bas, même s'il y a des moments difficiles, même si ça va être plus long, la vision de Dieu, c'est ces gens qui sont en train de sortir d'Égypte, malgré leur situation d'esclavage, leur réalité, c'est qu'ils sont mes armées. Ils sont mes armées. Et toi, quel que soit ton état, quel que soit là où tu en es, quel que soit les ossements que tu vois dans ta vie aujourd'hui, tu fais partie de l'armée de Dieu. Et cette église, quel que soit son état, quel que soit ses hauts et ses bas, et quels que soient les endroits qui sont secs, desséchés, et qui ne nous plaisent pas ou plus, elle fait partie des armées de Dieu. Et si tu commences à le voir, alors tu vas pouvoir commencer à le proclamer. Avec foi, parce que c'est ça la différence. Alors dans le texte d'Ézéchiel, il ne parle pas directement de la foi, mais c'est quand même un élément important qui va avec la proclamation, la foi. Dans Hébreux 11, au début du chapitre, la foi, certains vous connaissez ce verset par cœur, je suis sûre. La foi, c'est... Ouais, c'est un peu tout ça, oui. Il y a deux choses, en fait. C'est l'assurance des choses qu'on espère. Et puis, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. L'assurance des choses qu'on espère, c'est ce qu'on vient de parler là. C'est le fait d'être capable de voir des ossements desséchés, mais de savoir que ce n'est pas un état définitif. Il y a des choses qui sont sèches, il y a des choses qui ne portent pas de fruits, il y a des choses qui sont fermées, mais ça va changer. Il suffit d'une parole de Dieu pour que ça change. Donc ça peut changer. La question, c'est juste le timing et c'est qu'est-ce qu'il faut faire, comment on doit le faire. Mais ça peut changer. J'ai l'assurance et j'ai l'espérance que ces ossements desséchés peuvent devenir une armée. Ou si c'est une situation de notre vie, j'ai l'assurance que ces endroits secs et stériles peuvent devenir vivants et peuvent être des endroits avec lesquels je peux servir Dieu. Mais la deuxième partie, c'est énorme. À chaque fois que je lis ce verset, je suis... Ça me donne de la foi, juste. La foi, c'est la démonstration qui fait passer les choses qu'on ne voyait pas au point où on les voit. La démonstration des choses qu'on ne voit pas. Ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire quand quelque chose est démontré ? Ça veut dire que c'est prouvé. Tout d'un coup, c'est comme s'il y a un passage. Ben, la foi, elle fait ça, en fait. La foi, elle est cette force que Dieu met en nous et qui va nous rendre capables de travailler avec lui pour faire passer... les ossements desséchés à l'état d'armée. Et cette foi, elle est importante, en fait. Et on a besoin de grandir dedans. Et si on l'a plus, eh bien, on doit la redemander. Dans les situations que vous vivez, ou les situations qu'on peut vivre dans un travail, dans l'église, dans la famille, là où tu n'as plus la foi, c'est le moment de demander à Dieu qu'il vienne redonner l'espérance et la foi. Si on n'a pas la foi... parce que cette proclamation-là dont parle Ézéchiel, on ne peut pas juste la faire du bout de nos lèvres. Si je parle la vie sur les ossements desséchés, mais qu'à l'intérieur de moi, j'y crois pas, je ne suis pas en accord avec Dieu, en fait. J'ai pas d'autorité en moi. Ce qui va m'aider à vivre ce qu'il y a à vivre, c'est que je vais, quelque part, je vais m'agripper à Dieu, et ma foi, elle m'aide à ça. Je vais m'agripper à Dieu dans ce qu'il voit pour avoir l'assurance et pour voir les choses passer d'un état à un autre état. Donc on veut grandir dans la foi pour pouvoir libérer des paroles de vie et des paroles de bénédiction sur les situations qu'on a, sur les situations qu'on vit, que ce soit individuellement ou ensemble. Notre bouche, elle est extrêmement puissante. Et quand je pense à ça, j'ai une repentance instantanée de toutes les paroles négatives que j'ai pu dire sur moi, sur les autres ou sur les situations qui m'entourent. Et ça, c'est une des choses où Dieu m'a repris, vraiment. Ça ne veut pas dire, et je le redis, ce n'est pas une question de déni. Je suis pas, vous pouvez demander à ceux qui me connaissent, le déni, ce n'est pas mon principal problème. Moi, je suis plutôt très lucide sur les choses, un peu trop, parfois. J'ai beaucoup de lucidité. Donc je ne veux pas être négative parce que je me fais des illusions sur les choses. J'aime pas l'illusion, j'aime pas le déni, j'aime pas me faire des idées. Moi, ce que j'aime, c'est la réalité. Et puis si ça va pas, ça va pas. Mais par contre, on a besoin de retrouver cet endroit où il y a nouveau de l'espérance et de la foi dans notre cœur, que si Dieu dit ces ossements desséchés peuvent devenir une armée, s'il le dit, c'est que c'est vrai. Pas à cause de ce que je vois, pas à cause de ce que je crois, pas à cause de ce que je comprends, pas à cause de comment on est fort et costaud, pas à cause de rien de tout ça, juste parce que si Dieu le dit, c'est vrai. Ça, c'est le fondement de notre foi quand même. À un moment donné, il faut redevenir chrétien. Le fondement de notre foi, c'est que ce que Dieu dit, c'est. Et si on perd ça, alors on perd tout. C'est ça, on croit à un Dieu qui dit la vérité. Et que s'il nous donne une parole et s'il nous dit quelque chose, alors il va le faire. Et je crois qu'on est dans des temps où on doit réapprendre ça et où nos paroles doivent changer et où ce qui sort de notre bouche, ça doit changer. Et j'avais à cœur deux choses ce matin. J'avais à cœur qu'on puisse prier là où on s'est arrêté de parler sur les situations. Et ça, c'est la première chose. Certains d'entre nous, on a vu des ossements desséchés, des projets qui aboutissaient pas. On a vu l'état de nos vies, l'état d'une relation, l'état de l'Église et tout ça. Et finalement, on s'est arrêté de parler et on a arrêté de proclamer la vie sur ces situations parce qu'on a perdu l'espérance et la foi. Et on est devenu silencieux, en fait. Comme si on s'est retiré. Ça vous est arrivé, ça? Vous voyez une situation, tu crois plus que ça peut changer, tu crois plus que ça peut évoluer pour le bien. Ben, qu'est-ce que tu fais? Tu te retires. Quand c'est une relation, c'est tout simple, on se détache en fait. Mais dans une situation de famille, ben, on va arrêter de s'impliquer. Dans un travail, on va faire juste le minimum. On fait le minimum qu'on nous demande, et puis c'est tout. Dans une église, on va se désinvestir. Il y a des tas de moyens qu'on a où en fait on se retire. Et ce retrait, il est comme un silence en fait, qui s'installe dans notre vie. Et où au lieu de continuer à collaborer avec Dieu pour que ce qui était sec puisse redevenir vivant, ben finalement on abandonne. Et il y a des raisons à ça. Des fois c'est le temps. Des fois c'est tellement long. Il y a des situations qui sont compliquées et ça dure depuis tellement longtemps. Au bout d'un moment, ben t'as plus d'énergie. Et puis tu sais plus si tu fais bien d'espérer. L'espérance, il y a quelque chose avec l'espérance quand même. C'est que c'est douloureux l'espérance en fait. Des fois, c'est plus facile de plus croire que de continuer à espérer. Au moins, si tu n'y crois plus, tu n'y penses plus et tu as plus mal. C'est vrai. Mais j'avais l'impression que pour certains, ce matin, avec beaucoup de compassion, le Seigneur vient et il te dit, je sais que c'est douloureux, mais est-ce que tu es d'accord d'espérer de nouveau? Parce que je veux toujours que ces choses, ces ossements desséchés, redeviennent vivants. Mais j'ai besoin de toi. Est-ce que tu es d'accord de revenir? Est-ce que tu es d'accord de sortir du silence? Est-ce que tu es d'accord de sortir du retrait? Est-ce que tu es d'accord de m'écouter de nouveau? Et puis de te réengager pour ça, avec une parole de vie qui puisse faire passer les ossements desséchés à la vie. Et puis la deuxième chose que j'avais à cœur, c'est vraiment qu'on puisse demander pardon à Dieu pour tous les endroits, et je crois qu'il y a des endroits spécifiques que Dieu veut nous montrer, où en fait on a vu les ossements desséchés, mais au lieu de regarder les ossements desséchés avec l'espérance que donnent les yeux de Dieu, On a regardé l'espérance, on a regardé les ossements desséchés avec le désespoir de nos yeux humains et on a amoncelé les paroles négatives et les jugements et le mépris sur les situations, sur les relations, sur tout ce qui est sec. Et je crois que plusieurs d'entre nous, le Seigneur a dit, mais avant que je puisse remettre dans ta bouche une parole de vie et une parole qui va faire revivre les choses, j'ai besoin de nettoyer ta bouche de toutes les choses négatives qu'il y a dans ton cœur, toutes les choses négatives qu'il y a eu dans tes pensées et toutes les choses négatives qui sont sorties de ta bouche. Parce que finalement, ça n'a pas seulement sali les ossements desséchés, mais ça t'a sali toi, ça t'a pollué toi. Pour qu'on puisse être de nouveau une armée qui se tient debout et qui retrouve cette autorité vraiment que Dieu nous donne, comme il a donné à Ézéchiel, de pouvoir parler sur les ossements desséchés pour les faire revenir à la vie. Et puis, on va prendre juste une minute pour se mettre devant le Seigneur, parler à Dieu et écouter-le. Juste, est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un qui vous êtes retiré et vous êtes rentré dans le silence, vous avez arrêté de parler la vie, vous avez renoncé à espérer, et puis aujourd'hui, vous dites, ben moi, je veux reprendre, je suis d'accord de revenir. Même si ça représente de la douleur, même si ça représente un effort, mais je veux espérer de nouveau et je veux mettre ma foi en route de nouveau, que si Dieu dit que ces ossements desséchés peuvent revivre, c'est qu'ils le peuvent. Et, ou peut-être que Dieu va vous montrer des situations ou des choses précises sur lesquelles vous avez accumulé les paroles négatives, les jugements.